Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'École des créateurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle discussion, interview, avec Aurélie. Aurélie tient avec son copain Yann le blog et le compte Instagram Amoureux du Monde. Et dans ce podcast aujourd'hui, Aurélie nous partage comment elles ont réussi à transformer cette passion pour le voyage en un véritable métier, les dessous de la création de contenu à deux et comment elles se répartissent les tâches au quotidien, mais surtout l'art de se différencier dans une thématique ultra concurrentielle comme le voyage. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est plutôt simple, vous pouvez soit partager cet épisode sur Instagram ou me mettre une note directement sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Aurélie, du coup, ça va ?
Bonjour, ça va bien toi ?
Je t'ai déjà demandé, mais oui, ça va très bien. du coup, je vais te laisser te présenter tout simplement, je pense que ce sera plus simple. Qui t'explique un petit peu qui tu es, ce que tu, du coup, vous faites aujourd'hui et pourquoi t'es toute seule.
Très bien, moi je suis Aurélie et j'ai créé avec Yann le compte Instagram et le blog Amoureux du Monde. Donc c'est un blog voyage et un compte Instagram qui parle de voyage également. Donc on a monté ça à deux et on le gère à deux, que ce soit la partie commerciale qu'on ne voit pas forcément et la partie vraiment sociale. C'est-à-dire toute la communication avec notre communauté. À la base, Yann a fait des études en finance et moi en marketing digital. Donc, on a des champs de compétences totalement différents qui se complètent plutôt bien pour mener à bien cette aventure.
Vous avez démarré le blog, je crois, il y a 5 ans, en 2016. À la suite d'un voyage autour du monde, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du coup du déclic que vous avez eu, pourquoi vous avez eu envie de faire ce voyage et vous qui avez fait de longues études, comment t'en arrives à avoir ce déclic de j'ai fait de longues études et à la suite d'un voyage autour du monde, on arrête tout pour finalement écrire des articles, prendre des photos et essayer de vivre de cette passion.
Justement, en 2016, j'ai terminé mon Master 2 et Yann, lui, était déjà dans la vie professionnelle parce qu'il a 6 ans et demi de plus que moi. Ouais. Donc, à la fin de mes études, on était à Paris. Lui, on avait marre de Paris. Il est lyonnais d'origine, donc il préférait retourner sur Lyon. Et ensuite, moi, je voulais apprendre l'anglais ou du moins le pratiquer pour ensuite être plus à l'aise dans ma vie professionnelle future, parce qu'en digital, j'allais peut-être être confrontée à une vie professionnelle où j'allais devoir parler en anglais. Donc, on s'est dit, voilà, c'est la fin du master. Il a quitté son emploi et moi, j'ai refusé un contrat en CDI suite à mon alternance pour partir pendant 6 mois. Donc, on est parti 2 mois en Australie, histoire de pratiquer l'anglais à fond. Et ensuite, on a décidé de partir en Asie. Et en fait, moi, à la base, je suis moitié asiatique du Cambodge. Et j'avais jamais été dans mon pays d'origine. Donc, je voulais vraiment profiter de ce moment-là pour explorer mes racines, notamment. Et voilà, ça s'est fait assez spontanément. Après, au niveau de la photo, on n'avait aucune expérience. On a commencé avec nos iPhones et il n'y avait pas d'arrière-pensée en créant ce compte Instagram Amoureux du Monde. C'était vraiment pour se faire un album photo souvenir, pour informer aussi nos familles, nos amis. Voilà, il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'est vraiment arrivé comme ça. On ne s'est pas dit, allez, on crée le compte Instagram, comme ça, on va monter un blog après et puis en faire notre métier. Alors, pas du tout. Le plan, c'était de faire ça pendant 5 mois et de rentrer, retourner à nos occupations professionnelles habituelles, quoi.
Et du coup, quand vous êtes rentré à la fin des 5 mois, vous vous êtes dit, en fait, c'est peut-être pas trop ce qu'on a envie de faire, de retourner à nos occupations habituelles. Et c'est là qu'est née l'envie de pourquoi pas tenter l'expérience.
Voilà, exactement. C'est arrivé comme ça, mais vraiment par hasard, c'est parce qu'on a, au bon moment, au bon endroit, on a eu une première collaboration avec un hôtel quand on avait 10 000 abonnés à peu près, un hôtel sur Lyon qui s'appelle la Villa Florentine, du coup, qu'on apprécie énormément. C'est un magnifique hôtel qui domine la ville, il y a une très belle vue. notamment. Et du coup, on a fait cette première collaboration et on s'est dit, bah, si eux, ils sont intéressés par ce qu'on fait et le contenu qu'on propose, bah, j'imagine qu'il y en aurait d'autres à qui ça pourrait intéresser également. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on tente et on verra bien ce que ça donne. On s'était donné une visibilité à 6 mois à peu près. On s'était dit, OK, si on voit que dans 6 mois, on n'arrive pas à dégager un minimum de revenus suite à cette décision, bah, on arrête tout et puis on reprend là où on
On
s'était
reprend,
arrêté.
ouais.
Voilà.
Et c'est assez marrant, justement, le chemin inverse, je trouve, qui est totalement différent que celui qu'on a, enfin, qu'ont beaucoup de personnes aujourd'hui. À l'époque, c'était plus une passion qui devient un métier, ou cette idée de se dire, bah, je me lance dans un projet par pur plaisir et par pure envie, et bah, de fil en aiguille, il y a des opportunités qui se créent, et qu'aujourd'hui, c'est plus, on essaye de créer des opportunités où on essaye de se dire, bah, tiens, je vais essayer de vivre du voyage, je vais essayer de vivre du blog, je vais essayer de vivre de X, Y, Z, avant même de chercher à faire ça pour soi et pour le plaisir, tu vois. Tu penses que
Ouais.
c'est quelque chose qui a fait partie prenante de là où vous en êtes aujourd'hui ou pas? Si par exemple,
Non,
il y aurait eu le schéma inverse. Tu penses que ça
bah...
aurait été la même chose?
Non, parce qu'à la base, nous, quand on est partis pendant le voyage, pour le voyage de 6 mois, pardon, c'était sans arrière-pensée. Et
Ouais.
quand on partageait le contenu, pareil, c'était sans arrière-pensée, mais jamais, jamais, je me serais imaginé faire ça. Dans la vie, surtout que moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez introverti qui n'aime pas forcément l'exposition.
Ça, on va en reparler.
Donc en fait, non, jamais je me serais imaginé faire ça. Donc, finalement, on n'a pas fait le chemin inverse. On a fait ça par hasard. Et puis, bah, il se trouve que ça c'est arrivé. Voilà, c'est bien tombé.
Et comment vous l'annoncez à vos proches? À une période où ça reste, bah 2016, c'est pas les débuts du blogging, mais bon, on n'est pas non plus sur l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour des influenceurs, donc ça reste des métiers qui pour la plupart des gens sont un petit peu flous, tu vois.
Bah, je t'avoue que ça a été un petit peu compliqué au début, surtout qu'au début, on n'avait pas forcément de crédibilité. Je dis pas qu'on en a énormément maintenant, mais on en a déjà un peu plus qu'au démarrage. Et forcément, au début, on n'a pas eu un maximum, enfin, tout le soutien qu'on aurait aimé avoir. Mais après, c'est vrai qu'on avait de l'expérience professionnelle et des diplômes pour retomber sur nos pieds. Puis on n'allait pas tenter ça non plus pendant des années.
Ouais, si ça
Enfin, tu vois,
marchait pas, quoi.
voilà. Donc en fait, on n'était pas non plus complètement fou à se dire. C'était plutôt une folie raisonnée. Donc. Ça a été plus ou moins bien pris du côté de Diane, mieux que du mien. Mais
Ouais.
écoute, finalement, ça se termine bien. Donc,
Oui, voilà. C'est au pire, en fait, c'est disons qu'au pire du pire. Bah, vous aurez retrouvé des emplois que vous auriez dû avoir normalement un an plus tard, quoi.
Oui, voilà, c'était pas non plus une situation dramatique en cas d'échec.
Ouais, je trouve que c'est une belle façon de faire résonner un projet de cette façon. Au pire des cas, ce qui peut t'arriver, c'est que tu reviennes là où tu es aujourd'hui. Donc, tant qu'à faire, c'est soit tu réussis et tu vis un petit peu de ta passion ou des choses qui te font vibrer, ou soit bah, tu reviens là où
Oui.
tu es déjà, quoi.
Voilà,
Avec évidemment
exactement.
un peu d'investissement et d'efforts perdus, mais bon.
Bien sûr, mais bon, on apprend même des échecs,
Ouais, c'est
surtout
ça.
des échecs.
C'est ça. Il y a un truc qui moi, m'attire énormément chez vous, en fait, d'un point de vue création de contenu sur Internet, c'est ce côté d'avoir un projet commun à deux. En fait, c'est vraiment une curiosité personnelle. Moi, ça m'a toujours intrigué. Je me suis toujours posé la question, en fait, parce que, tu sais, tu as toujours des opportunités dans la vie, des personnes qui viennent te proposer des projets, etc. Et bah, le fait d'avoir un
Oui.
projet à deux, bah, y a énormément d'avantages, mais aussi des inconvénients. Et je trouve que je sais pas, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et j'aimerais avoir un petit peu ton avis là-dessus, ton expérience aussi. Comment est-ce qu'au début vous aviez appréhendé ce. Enfin, du coup, vous ne l'avez pas appréhendé parce que c'était vraiment un projet personnel, mais comment est-ce que peut-être vous l'appréhendez aujourd'hui, c'est-à-dire la création à deux, qui gère quoi, comment est-ce que vous répartissez les tâches, comment est-ce que vous faites bah, en cas de conflit ou d'indécision sur un projet ou sur quelque chose que vous voulez faire, par exemple, à l'avenir, tu vois?
Alors, en termes de conflit, c'est vrai qu'on a la chance de ne pas en avoir eu. On est souvent d'accord, si ce n'est même tout le temps, sur les décisions à prendre concernant la vie, l'aspect professionnel. Et alors, pour la répartition des tâches, ça s'est fait assez naturellement, parce que comme je t'ai dit, lui, il était en finance et moi en digital. En fait, ça s'est fait de manière évidente dans le sens où Yann, à la base, gérait plutôt l'aspect commercial, puis administratif et financier. Et moi, je gérais tout ce qui était la création du blog. Voilà, la seule chose qu'on se partage, en gros, c'est la gestion du compte Instagram au niveau des posts et de la modération des commentaires et des messages. Ça, on le fait à deux parce que ça représente un gros volume d'heures. Mais sinon, les tâches sont réparties de manière équilibrée et on fait en sorte de ne pas se marcher dessus. Parce que si on avait trop de tâches en commun, je pense que là naîtrait plus de conflits.
Ouais, le conflit. Ouais, le conflit, vous arrivez à l'éviter en faisant des tâches qui sont vraiment dissociées, quoi.
Voilà, on a une ligne directrice et puis voilà, après, si l'autre fait quelque chose, l'un fait quelque chose que l'autre n'apprécie pas, on n'est pas obligé de se crier dessus, on peut parler de manière
Ouais.
posée. Voilà.
C'est sûr. Et est-ce que dans votre vie personnelle, c'est quelque chose qui parfois peut empiéter sur le travail? Parce que comme bah, parfois ça peut être compliqué de travailler ensemble. Ou j'avais discuté de ça avec Chloé Bloom et du coup j'avais eu un petit peu son point de vue qui était intéressant là-dessus. Et je trouve que bah, parfois, selon les profils, les personnes et les projets, ça peut être compliqué ou ça peut ramener bah, les pros dans le perso ou le perso dans le pro, tu vois.
Alors oui, c'est vrai que ça ramène le pro dans le perso dans le sens où il n'y a plus de limite. Il n'y a pas
Ouais.
quand tu travailles tout seul ou alors que tu es salarié, tu débauches à telle heure et puis tu laisses tes soucis professionnels ou tes projets derrière toi. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile de trouver un équilibre entre ta vie personnelle, c'est-à-dire non, à 23h30, je sais pas moi, quand tu es devant un film, tu vas pas commencer à parler boulot, sauf que tu le fais parce que il y a quelque chose qui te passe par la tête et que tu as envie d'en parler. Donc oui, y a plus de frontières en fait.
Et ça, vous le vivez comment?
Écoute, parfois c'est compliqué,
Ouais.
mais comme tout, il faut garder la tête froide et en discuter calmement.
Ouais, parce que je suis un peu pareil. Moi, ma copine, on travaille ensemble en fait sur certains projets.
Oui.
Et puis, quand tu même sans forcément avoir un projet commun, quand forcément tu adhères un petit peu au même hobby ou aux mêmes passions. Nous, on a tous les deux nos business, donc nos idées, bah, comme vous, tu vois, c'est parfois à 23h, on va parler d'un truc. Et je pense que bah, c'est aussi important de dédramatiser ça, des fois, tu vois, que bah,
Oui.
c'est pas parce que tu comment dire, c'est pas parce que tu parles de quelque chose de pro à 22h le soir que c'est la fin du monde et que tu penses qu'au boulot et que voilà, tu vois. Je trouve que c'est des choses qui sont aussi naturelles et que bah, parfois ça arrive notamment bah, dans ce genre de projet où tu travailles à deux ou dans des couples où tu partages des hobbies communs, d'avoir des choses qui reviennent même dans la vie perso, tu vois, même les week-ends, même travailler sur un projet. Je pense que
Ouais.
c'est quelque chose qui est important à dédramatiser parce que parfois on peut s'en faire toute une montagne, tu vois,
Oui, je suis d'accord avec toi.
de ce truc de week-end, soir, etc. Ça
Mais
amène. Vas-y.
ça reste une question de proportion, quoi.
Ouais.
Faut simplement qu'il y ait un bon dosage, même si tu as envie d'en parler jusqu'à 3h du matin, c'est pas grave. Mais voilà, il faut que ça reste le bon dosage.
Ouais, c'est bah, sûr que si c'est tous les jours, ça risque
Oui.
d'être assez compliqué. On est dans le. Enfin, on va rester un peu dans le pro-perso d'un point de vue travail, parce que ça me fait penser du coup à votre secteur d'activité, et notamment à quelque chose que je pense, comment dire, qui je pense est un mythe qu'ont beaucoup de personnes qui suivent des profils comme le vôtre et des comptes comme le vôtre, c'est ces personnes sont tout le temps en voyage, tu vois.
Oui,
Le
tout le temps en
côté,
vacances, ouais, on nous dit
voilà,
souvent.
le côté en fait, alors on parlera plus après de l'aspect influenceur, etc. Mais moi, enfin, ma question c'était même d'un point de vue vous. Vacances et voyages. En fait, je me demandais ça tout à l'heure, vu que votre métier, alors je mets des gros gros guillemets, hein, on va approfondir après,
Oui.
mais vu que vous, votre métier, votre image, c'est vraiment d'avoir un blog sur le voyage et donc de voyager, à quel moment vous vous dites, bah en fait, ça par exemple, c'est des vacances, tu vois. Ça, c'est des vraies vacances.
Alors,
Est-ce que c'est pas difficile parfois quand vous êtes en vacances de pas justement prendre cet appareil photo, votre téléphone, d'alimenter bah, vos réseaux, etc. et en fait vous dire, bah je sais plus si on est en vacances ou pas en vacances, tu vois.
de ça, je te parle avant le Covid, évidemment, parce que le contexte de 2020 était
Un
particulier.
peu, voilà.
Donc avant ça, le moment où on se sentait en vacances, c'était vraiment quand on partait, mais avec des amis. Ce qui nous permettait de sortir un peu la tête d'Instagram et tout. Donc, on alimentait quand même un petit peu, mais très vite fait, bah, simplement bah, par respect aussi par nos amis et parce qu'on avait autre chose à faire avec eux. Mais c'est vrai que quand on est parti à deux, jamais on s'est dit ouais, ben, on lâche l'appareil photo, ça n'existait pas. Après, ça reste du voyage. Enfin, en gros, on va avoir l'impression que je me plains, mais pas du tout. Hein, mais ça restait du voyage pour créer du contenu. Mais même si c'était du travail parfois, même si voilà, quand on est en voyage, le compte Instagram, bah, il marche beaucoup plus. Donc, ce qui requiert d'être plus sur le téléphone et tout. Même si tout ça, bah, ça restait du travail agréable.
Oui, disons
Ouais.
que c'est sûr que on n'est pas derrière un ordi dans un bureau en train de faire des calculs compliqués de
Non.
fiscalité, quoi. Ça reste du travail
Non, c'est
appréciable.
clair.
Mais
Voilà.
c'est cool enfin, d'avoir un peu ton point de vue parce que bah, parfois, certains métiers comme le vôtre amènent à avoir une déconnexion entre où est la limite du pro et du perso, même d'un point de vue
Oui.
bah, de vous, votre appréciation, quoi. Là on est en week-end, on est vraiment en week-end, là on est en vacances, on est vraiment en vacances, quoi.
Oui, non, c'est sûr. Après, souvent, on s'était dit avec Yann avant, bah, avant le Covid que quand on était à Lyon, finalement, c'est là où on se sentait le plus en vacances,
C'est vrai.
quand on était chez nous. Parce que c'est vrai que quand on poste des stories et tout sur des destinations qui intéressent les gens, bah, c'est normal, ils sont contents et tout. Donc,
Ah oui.
c'est vrai qu'à nous deux, on passe peut-être en voyage, on passe 8 heures sur Instagram. Plus le temps de, bah, de faire des commentaires, répondre aux commentaires, de faire les stories, de les poster, de faire des photos, de faire des vidéos, de faire tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus intense que quand on est à Lyon et qu'on est juste là à répondre à nos mails et à rédiger nos articles de blog, tu vois.
Ouais, je vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plus de production quand vous êtes en voyage, donc indirectement, ça amène à
Voilà.
beaucoup plus de travail.
C'est ça, exactement.
C'est cool. Ça amène au point suivant, puisque tu parles de ça, c'est un sujet que vous aviez déjà abordé sur Instagram notamment, et qui montre, en fait, c'est ça que je trouve vachement intéressant, qui montre un petit peu l'envers du décor de ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux.
Oui.
D'animer une communauté, c'est passé 6, 7, 8 heures par jour sur Instagram, parce que je sais que vous vous accordez énormément, énormément, énormément d'importance à la communauté, au fait de répondre à quasi la totalité des messages, ou en tout cas, comment dire, autant que possible.
Oui.
Moi, à mon sens, d'un point de vue extérieur, je pense que c'est ce qui vous différencie vachement de ce qu'on peut voir en fait ailleurs sur d'autres blogs de voyage ou d'autres personnes qui font des photos en voyage. Et en fait, j'aurais aimé du coup avoir ton point de vue à toi, enfin le vôtre du coup, peut-être dans votre stratégie éditoriale ou stratégie de contenu, parce que les blogs de voyage, c'est un secteur aujourd'hui qui est assez concurrentiel, tu vois.
Oui.
Que ce soit du point de vue du blog, vraiment pas purement partie blogging, ou que ce soit même sur Instagram, les photos de voyage et tout, c'est vachement concurrentiel. Et du coup, vous, c'est quoi votre vision ou c'est quoi votre facteur de différenciation par rapport aux autres dans votre domaine? Comment est-ce que vous l'avez défini, etc.?
Mais je pense que tu as raison, le fait qu'on soit proche de notre communauté, que ce soit dans la réponse aux commentaires ou aux messages, ça nous différencie. Après, c'est vrai que nous, on est deux dessus, donc c'est plus facile à gérer qu'une personne seule. C'est vrai que si Yann ou moi, on était seuls à gérer ça représente un volume tellement important que bah, tu peux pas forcément suivre tout le temps. Donc je pense que ça nous différencie. Et après, j'ai pas la prétention de dire que on a des photos exceptionnelles, hein, écoute, mais en tout cas, sur le blog, je trouve que nos guides sont très détaillés. En
Je
fait,
confirme.
l'objectif du blog, c'était vraiment parce que moi-même, je vais sur des blogs quand j'organise, quand on organise nos voyages et tout, nos itinéraires. Et c'est vrai que souvent, je dois aller pêcher des informations sur plein de sites différents et ça m'embête et tout. Et donc, vraiment, l'objectif de ce blog, c'était que quand la personne, je ne sais pas, veut partir en Guadeloupe, par exemple, elle arrive, elle voit un itinéraire de 2 semaines et elle trouve le maximum d'informations possibles sur une seule page sans avoir à s'éparpiller partout.
Ouais. Je suis d'accord parce que pour le coup, j'ai vraiment pu le tester. On était parti en septembre, bon, on a eu de la chance du coup, septembre 2020. On a un petit peu, on a un peu passé entre les mailles du filet. On est parti avec ma
C'est
copine
cool.
à Santorin et du coup, bon, on est allé voir vos articles de blog, etc. Et c'est vrai que dans une même, sur une même page, tu vois, sans avoir besoin de faire 12 millions de recherches, tu as un itinéraire qui est bien, qui est carré. Et c'est sympa parce que ça montre comment dire, ça montre que même sur un secteur qui est ultra concurrentiel, parce qu'il y a une forte offre sur le monde du blogging de voyage, bah en fait, il y a quand même des lacunes d'un point de vue besoin, tu vois, d'un point de vue consommation.
Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, merci. Je suis ravie que le guide sur Santorin t'ait plu.
On a vraiment fait des spots sympas. Et
Oh, c'est
en
cool.
plus de ça, c'est vachement tourné aujourd'hui, quelque chose qui est assez, enfin, qui à mon sens est vachement important, tu vois, c'est que c'est aussi beaucoup tourné spot photo. Enfin, il y a
Oui.
beaucoup de... Vous amenez en fait une sorte de voyage ou d'itinéraire vachement 2020, ou enfin du coup 2021. C'est plus comme à l'époque où on voyageait pour voir des choses. Là, il y a vachement aussi une proposition qui est bah, qu'on ait des spots jolis, qu'on peut prendre en photo et qu'on peut partager sur les réseaux. Et ça, je pense
Oui,
que c'est
après,
aussi...
ça plaît ou ça me plaît pas. Ça me plaît pas,
Oui,
ça.
voilà.
C'est vrai que y en a le voyage Instagram entre guillemets est très critiqué.
C'est à double tranchant, quoi.
Nous, si on prend des photos comme ça où on se met en scène, c'est pour mettre en valeur le paysage à la base. Hein. Et c'est vrai que oui, c'est pas mal critiqué, mais en même temps, c'est tellement partagé que voilà, on aime détester les Instagrammeurs, je pense.
C'est ça. Je sais pas si c'est une forme vraiment de haine envers le concept ou plus peut-être envers les personnes ou une forme de jalousie. Ça
Je ne sais
restera un
pas,
peu.
je pense que ça dépend des gens.
Ouais, c'est sûr. Ok. Je voulais du coup, on va rester sur la partie contenu. Je voulais rester sur la partie contenu avec toi par rapport aux photos et notamment peut-être pour qu'on parle de vous, votre process de création, c'est-à-dire que bah, vous avez un blog, vous avez votre compte Instagram. Je crois que vous avez aussi Pinterest, mais qui n'est peut-être pas alimenté. Je suis allé regarder, je ne sais pas si vous l'alimentez autant que le reste, mais qu'on parle un petit peu de votre process de création quand vous partez en voyage. Comment est-ce que vous faites? C'est-à-dire du point de vue de l'itinéraire, mais aussi vachement du point de vue des réseaux sociaux, parce que je sais que c'est une problématique qu'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, notamment... De manière générale, sur les réseaux sociaux, ce problème d'arriver à avoir des stocks, des photos en avance, la planification, etc. Mais aussi beaucoup des personnes qui ont envie de faire comme vous et qui souvent font face à un vrai problème, c'est j'ai un poste, je suis salarié ou voilà, j'ai une activité, j'ai peu de vacances. Comment je peux mettre à profit ce peu de vacances sur une année? Et en fait, c'est Valentin Lucas, qui est influenceur, qui a partagé ça une fois. C'est un conseil que j'avais retenu. Lui, par exemple, quand il partait en séjour 2, 3 jours dans un endroit, il prenait une cinquantaine de photos qu'il publiait tout au long de l'année, sur son compte, tu vois.
Oui, alors pour les itinéraires, déjà, bah, je fais des repérages sur les blogs, sur les sites professionnels de guides de voyage comme LonelyPlanet par exemple, ou sur les réseaux sociaux directement, en recherchant la destination et en regardant des spots que j'aimerais visiter. Voilà.
Et est-ce
Ensuite,
que,
oui.
petite question, je trouve ça intéressant. Est-ce que du coup, tu te fies, ou est-ce que vous êtes le genre de voyageur à vouloir éviter à tout prix les lieux touristiques ou pas? Je trouve que c'est une question intéressante. Parce que souvent, c'est des lieux qu'on a envie de visiter parce que c'est joli, mais quand on arrive sur place, en fait, on voit les touristes, on se dit.
Alors, ça dépend. Quand c'est un lieu touristique qu'on trouve vraiment beau et qu'on a envie de voir, on va pas l'éviter, mais on va y aller à l'ouverture ou quand c'est un lieu où il y a des horaires. Ou alors, on y va très, très, très tôt le matin avant que tout le monde arrive pour éviter l'afflux de monde. Parce que c'est vrai que arriver sur place et voir des troupes, des personnes attroupées, personnellement, c'est pas mon délire, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, s'il y a un site touristique qu'on a envie de visiter, c'est très tôt le matin ou tard le soir, enfin, voilà, dans des horaires adaptés à la visite pour avoir le minimum de monde possible.
Puis surtout pour vos photos, c'est aussi quelque chose qui est quasi
Oui,
primordial, quoi.
complètement.
Et du coup, une fois que vous avez une fois que vous avez votre itinéraire.
Eh ben, on visite l'endroit et ensuite, une fois sur place, en fait, on repère des endroits. Alors, d'abord, on commence par faire des stories. Ensuite, on repère les spots photos. Donc, moi, je fais les stories et Yann repère l'angle de vue et tout ça. Et après, soit on se prend à deux, on pose un trépied, ou soit il me prend toute seule et voilà, il fait. Et puis, on prend énormément de stock. Je pense qu'à la journée, on prend des photos en rafale pour avoir le bon
Moment
mouvement
parfait.
sur la photo. Et sur une journée, quand on rentre le soir, on doit avoir, je sais pas moi, minimum 1000 photos à trier, quoi.
Ah ouais. Trier et puis.
Donc,
Et après.
ouais.
Et c'est des stocks après que vous écoulez courant année ou vous faites vraiment des sessions. Par exemple, des lieux que vous visitez, vous postez les photos de ce lieu-là et après, en gros, on n'en a plus, on passe à autre chose, tu vois.
Non, là, en 2020, on a fait énormément de ripostes parce que du coup, comme on n'a pas
Oui.
pu voyager, on n'avait pas assez de contenu
Ça, j'ai vu.
nouveau en stock. Donc, on fait des ripostes en attendant de pouvoir rebouger et recréer du nouveau contenu, quoi.
Et justement, les reposts, est-ce que c'est un truc que j'avais notamment vu sur des comptes américains, mais de sport? C'est assez peu utilisé sur des comptes, comment dire? Classique entre guillemets, tu vois. Enfin, moi j'ai souvent vu associer les reposts à des pages ou des mèmes. Comment est-ce que ça a été donc tu l'as dit, vous l'avez fait parce que vous avez plus de contenu à produire. Et comment est-ce que ça, en termes de un, de résultats, et de deux, c'est toujours une question qui m'a intrigué, de la part de votre audience, comment ça a été perçu? Est-ce que les gens ont vu que c'était une ancienne photo? Et si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi, etc.
Il y en a qui doivent le remarquer parce qu'ils nous suivent depuis un moment, mais enfin, on n'a pas eu de remarques à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de, en termes d'engagement, en tout cas, ça ne, il n'y a pas une énorme chute. Et parfois, ça marche même mieux la deuxième fois qu'on la poste que la première. Donc, écoute, j'ai pas eu de retour négatif vis-à-vis de ça. Surtout que là, les gens savent très bien qu'on ne peut pas bouger.
Oui.
Et nous, si on continue à poster, c'est pour rester en contact avec eux et pour pas se faire oublier par l'algorithme d'Insta. Donc voilà, on n'a pas eu de remarques négatives à ce niveau-là.
Ouais. Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que ça amène peut-être même à développer une stratégie supplémentaire de contenu, tu vois. Parfois, même quand vous avez du stock, reposter peut-être des anciennes photos pour repartager des anciens lieux que les gens peuvent visiter. Parce qu'au final, en plus de ça, t'as une sorte de. Enfin, t'as deux phénomènes, je pense. C'est que tu as une croissance continue donc de
Oui.
nouvelles personnes qui n'ont pas vu les anciennes photos. Et
Voilà, c'est ça.
t'as aussi le phénomène que les gens ont oublié ou voilà, tu sais, une photo, c'est vachement éphémère. Tu la vois passer une
Oui.
semaine après, tu peux la revoir sans te souvenir de la première fois.
Oui, il y a tellement de volume sur Insta en plus que enfin les photos qu'on a postées il y a un an, je pense pas
Que
que
les gens se souviennent.
90% des gens s'en souviennent, quoi.
Oh, mais du coup, c'est vachement intéressant. Et comment vous avez fait par rapport au Covid, du coup, en 2020?
Écoute, on
En
était
termes de
confinés
gestion?
de mars à juin, je crois. Ensuite, dès qu'on a eu la limite des 100 km, on est parti à Annecy. On a fait du contenu sympa, d'ailleurs, qui a été beaucoup apprécié parce que c'était notre premier voyage post-déconfinement. Donc, c'était vraiment cool. Et ensuite, on est resté en France cet été, uniquement en France. On avait d'ailleurs dit dès le confinement que cet été, bah, on resterait en France. Pour mettre en avant plutôt des lieux touristiques et participer à notre modeste échelle à relancer le
La
tourisme
culture.
un petit peu, voilà. Et ensuite, en septembre, c'était encore ouvert, donc on a pu aller en Espagne et en Grèce en octobre, et ensuite on est revenu, et une semaine après, c'était le confinement numéro 2.
Très bon
En
rythme.
termes de gestion, ça s'est géré, bah, pareil que d'habitude, parce que l'activité a repris entre juin et octobre. Mais c'est vrai que pendant le premier confinement, si tu parles en termes de revenus, en tout cas, nous, on a eu le droit à l'aide, pour les entreprises
Ouais.
fragilisées, par le Covid-19. Voilà.
Parce que durant ces périodes, concrètement, vos tâches essentielles d'entreprise, du coup, liées à votre activité, diminuent fortement. Vous avez beaucoup moins de... En fait, directement, ça touche à votre secteur d'activité et donc aux tâches que vous avez à effectuer au
Bon,
quotidien, quoi.
du coup, ça a annulé. Nous, c'est vrai que la période du printemps, c'est la forte saison, entre guillemets, pour nous, parce que les destinations veulent communiquer avant l'été, avant les grandes vacances d'été. Donc, nous, ça a annulé tous nos projets pendant 3 mois. Puis, ça a fortement, fortement, fortement ralenti les visites et donc les revenus qu'on dégageait du blog Voyage. Et sur Instagram, il y a eu quelques placements de produits qui ont été maintenus, mais la plupart annulés en fait.
Ouais, parce que c'était le voyage, quoi.
Voilà, ou par manque de budget, ou voilà, par manque de visibilité à long terme. C'est vrai qu'on a été fortement impacté, surtout au niveau du blog.
Et ça, chez vous, ça a fait naître une sorte de remise en question sur peut-être vos sources de revenus ou la pérennité de l'entreprise et du business plus tard?
Non, pas spécialement, parce qu'on se doutait bien qu'on allait un jour sortir de l'épidémie. Et c'est vrai qu'on a la sécurité d'avoir une belle communauté, que ce soit sur Instagram ou sur le blog. Donc, pour l'instant, ça ne remet pas en question le business model, on va dire. Moi, je le trouve très bien comme ça, parce que c'est vrai qu'on a des sources de revenus qui sont assez variées. Donc, par exemple, bah là, le blog s'est pris un coup de massue énorme. Bah, on avait quand même Instagram qui pouvait nous maintenir à flot, on va dire, et inversement. Le blog va reprendre et puis.
Vos sources de revenus aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez le blog, c'est-à-dire les publicités?
Non, alors on a fait le choix de ne pas
Ou
mettre de
c'est
publicité pour
sponsorisé?
le moment. Parce
Ok.
que ça, enfin, moi, je trouve ça très, très moche, en fait, sur un site. Donc, je trouve que ça gâche un peu l'expérience utilisateur. Donc, on s'est dit que pour le moment, on ne mettait pas de publicité. Alors, les revenus du blog, c'est soit des articles sponsorisés. Donc, par exemple, un comparateur d'avion qui va vouloir un lien, ou qu'on parle de son service, voilà.
OK.
Soit de l'affiliation. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tu as été consulter le guide de Santorin. Si on a recommandé l'hôtel où on a dormi. Si toi, tu as réservé.
Via le lien.
Oups, pardon, j'ai un double appel. Attends, je refuse. Voilà. Donc, si toi, tu as réservé via le lien qu'il y a sur le blog, en fait, on va toucher une commission. Donc, on va réduire la commission de Booking.com et on va leur prendre une petite part de leur commission.
Et en termes de trafic aujourd'hui, le blog, c'est quelque chose. Moi, je me suis toujours posé une question, en fait. Le blog, est-ce que ça marche toujours aujourd'hui en termes de trafic en 2021? Parce que tu as un peu des
Oui.
on-dit de tous les côtés de personnes qui disent qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent des articles, etc. Mais bizarrement, ces personnes ne tiennent jamais de blog, tu vois. Donc moi, ça m'intrigue.
Oui. Alors moi, en tout cas, au niveau du tourisme, hein, je
Ouais.
pense que la plupart des gens qui ont accès à Internet aujourd'hui organisent leur voyage via des blogs ou des sites associés à des blogs. Donc oui, dans le tourisme, je pense que le blog n'est absolument pas mort. Et au niveau client, c'est-à-dire office du tourisme et tout, ils aiment la visibilité soudaine qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux, mais ils aiment la pérennité des contenus qui sont sur
Ouais.
un blog parce que c'est pas éphémère, alors que sur un réseau social, bah, au bout de 2 3 jours, ton post Instagram il est passé à la trappe, quoi.
Ouais. C'est plus le SEO que les marques aujourd'hui ont envie de retenir
Voilà.
pour une croissance long terme. Et au point de vue, d'un point de vue des collaborations, du coup, comment est-ce que, parce que j'imagine que vous devez, à votre échelle, moi j'ai 13 000 abonnés sur Instagram et déjà j'ai l'impression de recevoir 5 demandes de collab par semaine. Et pour moi, c'est déjà
Oui.
beaucoup trop. Donc je me dis que vous, à votre échelle, vous devez vous faire un petit peu bombarder de demandes de collab de tout et n'importe quoi. Comment est-ce que vous gérez votre process de collaboration? C'est-à-dire, en fonction de quoi est-ce que vous vous dites, bah, OK, par exemple, ce projet, il va nous intéresser, il ne va pas nous intéresser. Est-ce que bah, vous confrontez ça à vos valeurs? Est-ce que forcément, il y a la partie rémunération, mais comment est-ce que vous gérez vos collaborations aujourd'hui?
Alors en fait, on va accepter si c'est soit un projet qu'on avait déjà en tête, c'est-à-dire une destination par exemple dans laquelle on avait vraiment envie de voyager. Donc là, on va l'accepter en fonction de bah, ce qu'il nous propose. C'est vrai que une fois par exemple, on avait une demande de collaboration pour un office du tourisme en France ou je ne sais plus où, mais bref, qui nous proposait un programme basé sur l'histoire de l'art ou la visite de musées. Très très bien, mais c'est vrai que ça ne correspond absolument pas à ce qu'on montre sur Instagram, qu'on est plutôt nature, et je ne pense pas que ça aurait pu plaire à la communauté qu'on a fédérée jusqu'à maintenant. Donc on a refusé, alors que c'était rémunéré, voilà, mais on a refusé quand même parce que bah, nous, ça ne nous intéressait pas forcément. Et en plus, ça n'aurait pas intéressé, je pense, la communauté qu'on a sur Insta. Donc on se base, voilà, est-ce que déjà on a envie de le faire? Est-ce que ça pourrait plaire? Et ou alors si c'est un produit, est-ce que bah, on utiliserait ce produit? Moi par exemple, voilà, c'est bien vu ou c'est mal vu, mais je fais des placements de produits tous les mois pour Pin Up Secret. C'est une marque qui fait des produits cosmétiques à base de lait de chèvre. Moi, ces produits-là, si j'accepte de les mettre en avant, c'est parce que oui, je suis rémunérée, mais je les
Les
utilise
utilise quoi.
deux fois par jour. Donc
Ouais.
je recommande quelque chose que vraiment qu'il y a dans ma vie quotidienne.
Parce que ça, c'est vraiment depuis, j'ai l'impression, une année, un peu le fléau d'Internet, l'essor de partenariats montés un petit peu bancal, de produits qui sont jamais testés, de produits qui sont chinois et qui sont pas de bonne qualité. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Dans une interview que vous aviez fait, je crois que c'est Yann qui utilise le terme les faux influenceurs et que je trouve c'est assez marrant et ça représente vachement aujourd'hui un petit peu ce qui est véhiculé beaucoup sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu en train de salir l'image des influenceurs. C'est-à-dire, enfin, moi, ce qu'on entend par vrai influenceur, nous, c'est des personnes qui créent une communauté, qui créent du contenu, qui ont des valeurs et qui font du travail de qualité. Et je trouve justement que c'est vachement intéressant de parler de ça parce que c'est rabaissé par beaucoup de personnes justement qui acceptent n'importe quel type de collaboration, qui vont mettre en avant n'importe quel produit, pourri ou pas pourri ou peu importe,
Oui.
et qui du coup vont salir l'image générale des personnes qui font ce métier, tu vois. On va dire directement, bah, les placements de produits, c'est pourri parce que X personne a fait n'importe quoi. Souvent,
Oui, oui.
des gens de télé-réalité en général, c'est pas exceptionnel,
Oui.
mais du coup, ça salit un peu l'image de tout le monde, tu vois. Et c'est intéressant d'avoir
C'est
votre point de
vrai.
vue.
Après, si on n'arrive pas à faire la différence entre bah, quelqu'un qui fait des placements de produits douteux et ce qu'on propose, ben, je vais te dire, c'est pas grave. Si la personne n'est pas contente, ben, il y a énormément de comptes à suivre. Elle se
Oui.
désabonne et tout. Je pense pas qu'il y ait matière à polémiquer non plus. C'est vrai
Non.
que bah, les gens de télé-réalité, certains ont des pratiques
Un peu
très
douteuse, quoi.
discutables,
Voilà.
mais voilà, c'est pas non plus un sujet de société dramatique.
Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que comment dire? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous arrivez à transmettre à votre audience? Je sais pas comment tourner cette phrase. Alors attends. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez à transmettre à votre audience quel est votre réel quotidien? C'est-à-dire ce côté souvent, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure où je voulais revenir dessus. Ce côté, bah, c'est des personnes qui gagnent leur vie en voyageant, donc indirectement, c'est des personnes qui ne font pas grand-chose. Elles ont juste à prendre deux, trois photos, à les poster, et puis ça s'arrête là, tu vois.
Non, on ne montre pas le vrai quotidien parce que moi je pars du principe que ce n'est pas ce que les gens qui nous
Veulent.
suivent ont forcément envie de voir. Tout le temps, en tout cas. Je pense que
Ouais.
faire des piqûres de rappel, comme on le fait parfois en mettant des boîtes à questions, on répond aux questions, bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout, on explique un petit peu de temps en temps. Et il y a une page qui sommes-nous sur le blog qui explique ce qu'on fait et comment on génère des revenus, etc. Mais je pense que si quelqu'un vient suivre un compte Instagram de voyage, il a envie de voir des voyages, il n'a pas envie de voir quelqu'un en train de faire des factures ou faire des
Ouais.
déclarations ou payer ses charges. Ben, tu vois, je pense que chacun a son quotidien. Si tu vas sur Insta et que tu as envie de voir des voyages, voilà, tu as envie de sortir de ta vie quotidienne justement et celui des autres. Enfin, je pense que les gens s'en fichent complètement de notre quotidien.
Ouais, c'est surtout à t'entendre, c'est surtout une question de proportion. C'est-à-dire le montrer pour montrer que c'est quand même pas. C'est quand même pas ça, mais pas non
Oui.
plus en faire sa ligne éditoriale, parce que sinon ça perd un peu tout son sens dans votre activité, quoi.
Oui, voilà.
Ok. Dernière question que je voulais te poser, que je trouve intéressante, ou en tout cas avoir ton point de vue là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est toujours possible bah, du coup en 2021 dans un secteur qui est ultra concurrentiel comme le voyage de toujours arriver à se faire sa place? Et si oui, comment?
Oui, je pense
En tant
que c'est toujours
qu'influenceur, du coup.
possible. Oui, je pense que c'est toujours possible. Après, je dirais que on vient souvent nous poser la question comment faire pour démarrer? Moi aussi, je veux faire comme vous, vivre de voyage, etc. Oui, très bien. Mais par contre, je pense que si tu fais ça, si tu démarres ça juste pour pouvoir en vivre après, automatiquement, ça va se voir. Tu vas avoir l'appât du gain beaucoup trop rapidement et de manière beaucoup trop prononcée. Et voilà. Donc déjà, faudrait voyager parce qu'on aime ça à la base et pas juste pour aller faire des photos. Et il faut aussi essayer de se différencier et d'avoir soit une ligne éditoriale un peu spéciale, soit une touche une touche créative particulière. Je sais que par exemple, bon, les familles ou les comptes avec les animaux, ça marche très, très bien en termes d'engagement. Moi, mon compte préféré, c'est celui de Justine WDM. Je ne sais pas si tu connais.
Non. WDM.
Oui, Justine.WDM, il me semble. Et
Je...
en fait, elle a une ligne éditoriale. Très drôle et des photos magnifiques qu'elle prend avec ses animaux et elle. Et sa ligne éditoriale, en fait, c'est de faire parler ses animaux. Donc, elle aura tous créé un personnage et je trouve ça très drôle. Et je trouve que pour le coup, elle se différencie de tous les contes animaux que j'ai pu connaître. Et voilà. Donc, elle, pour le coup, elle arrive à émerger et à avoir une bonne croissance et un très bon taux d'engagement. Elle, pour le coup, a le secret
Ah ouais.
pour se démarquer et réussir sur les réseaux.
Ouais, je suis dessus là. Je suis dessus
Ouais.
et c'est vrai que du coup, c'est prendre un petit peu la thématique générale du voyage, mais avec un angle justement
Voilà.
qui lui est propre et unique.
Exact.
Je connaissais pas du tout. Très bien.
Mais bien sûr que
Ouais.
c'est possible d'émerger. C'est
Ouais.
possible, c'est comme, tu sais, le gars là, qui avait mis des panneaux partout dans le monde en disant Mom, I'm fine.
Je l'ai
Tu
écouté,
vois?
bien sûr. J'en ai
Ouais,
entendu
ben
parler la
tu vois,
dernière
lui,
fois.
il a explosé parce qu'il s'est fait reprendre partout dans la presse et tout. Mais voilà, c'est
Ouais.
parce qu'il a créé quelque chose, un concept qui change de tout ce qu'on voit d'habitude.
C'est ça, c'est ça. En plus, j'en ai entendu parler. J'ai écouté un podcast de Stan Leloup justement sur lui où il parle de ça. Et c'est vrai quoi, ouais, en plus, dans des secteurs comme ça où c'est ultra concurrentiel, c'est d'autant plus.
Oui.
Dans des secteurs qui sont moins concurrentiels, ne pas avoir d'angle ou de concept, ça peut encore convenir. Mais par contre, dans les secteurs ultra concurrentiels, moi, je pense notamment bah, au voyage, je pense aussi à tout ce qui est lifestyle, etc.
Oui, oui.
Si tu n'as pas d'angle unique ou de concept unique, c'est très, très compliqué, à mon avis, de se démarquer quoi, et de se faire une place,
Exactement,
sans dire
tout
que c'est
à fait.
impossible. Ok, je vais terminer avec trois petites questions, du coup,
Oui.
que j'aime bien poser. Si tu avais un conseil à donner par rapport du coup à ton donc votre expérience avec Voyageurs du Monde, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de construire une communauté aujourd'hui sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ce serait quoi?
Ce serait d'être proche de sa communauté, vraiment, parce que Instagram, c'est un réseau social, et dans le mot social, ça implique qu'on accepte et qu'on le fait avec plaisir d'avoir du lien avec les gens qui nous suivent. Si on commence à ne plus avoir de considération pour eux à partir d'un certain seuil d'abonnés, parce qu'on commence à avoir des étoiles dans les yeux, tout ça, ça risque de ne pas faire long feu. Donc, c'est vraiment de rester proche de sa communauté, quoi qu'il en soit, dans la mesure du possible, bien sûr, on ne va pas faire des nuits blanches, voilà,
Ouais.
mais de rester proche de sa communauté.
Ouais, mais c'est justement, je trouve que le fait que tu le dises avec la position que vous avez, moi je trouve c'est fort parce que sans donc pour remettre dans le contexte, pour ceux qui vous découvrent peut-être au travers du
Oui.
podcast, vous avez 141 000 abonnés. Donc
Oui.
moi, ça me fait rire justement des personnes qui en ont 5 000, 10 000, 20 000 et qui disent ah, je peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Tu vois qu'en fait,
Oui.
c'est peut-être plus une question de volonté que de possibilité.
J'imagine.
Deuxième question, si bah, du coup tu, à la base c'était pour chacun d'entre vous, mais ou peut-être si
Oui.
tu veux répondre pour vous deux, si tu ou vous deviez vous dire une seule chose à votre personne d'il y a 5 ou 10 ans, un conseil que vous donneriez en fait par rapport à ce que vous avez vécu avec ce projet-là.
Qu'il faut vraiment se lancer et tenter sa chance malgré les personnes qui essaieront de te retenir. C'est un peu bateau, mais il faut vraiment croire en soi. Et même si, et bien sûr qu'il y en aura hein, des gens qui vont te décourager, soit parce qu'ils pensent que tu vas te planter, soit parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentiraient pas capables de se lancer, d'aller de l'avant, bah, il faut y aller, il faut foncer. Mais bon, sans non plus prendre des risques trop importants. Mais tant que le risque est calculé, je pense que le risque est moins à prendre.
Ok, et dernière question, je ne sais pas si la réponse sera différente, mais qu'est-ce que vous conseilleriez de faire à des personnes qui ont envie de faire, alors comme vous du coup, c'est-à-dire qui sont passionnées par le voyage et en fait qui se posent la question depuis un moment, j'aimerais bien en faire un métier.
Bah de se former à plein de compétences digitales, de savoir non seulement créer de la photo, mais surtout de la vidéo les contenus vidéo sur le net, bah, c'est pas un secret, ça émerge de plus en plus et ça prendra peut-être le dessus sur la photo un jour. De savoir rédiger, mais créer un site internet, de savoir d'élargir au maximum son champ de compétences en fait pour pouvoir. Gérer son business en faisant le plus de choses possible pour avoir le moins d'investissement possible au début et ne pas compter sur les autres en fait. Le fait de savoir faire plein de choses différentes, bah, ça permet de se lancer seul sans avoir à sortir le porte-monnaie à chaque fois, quoi.
Ouais. Oui. Disons que surtout si, bah, si au début, quand on se lance, on n'a pas de ressources financières
Voilà,
pour
tout
faire
à fait.
un site web par un dev,
Et
etc.
aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de plateformes et énormément de tutos sur Internet. Donc, si on s'en donne la peine, on peut se former tout seul. Et voilà, il ne faut pas avoir peur d'y aller et de compter sur soi.
Bah, parfait. Très belle réponse. Bah écoute, Aurélie, je te remercie. du coup.
Bah, merci
Bon,
à toi, c'était
merci.
un plaisir.
Tu remercieras Yann aussi d'avoir accepté l'ITV.
Ça marche.
Si on a envie de vous suivre, on va où?
Eh
Sur
ben, vous
Instagram?
allez sur Instagram, Amoureux du Monde, et sur le blog, c'est amoureux-du-monde.com pour avoir des itinéraires détaillés de nos voyages.
Que je recommande, si jamais.
C'est gentil,
Je
merci.
mettrai tous les liens dans les notes de toute façon. Je te remercie Aurélie et puis je te
Bah,
souhaite une belle
merci à
journée.
toi. À toi aussi. À
Bisous.
bientôt.